I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick guy.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast draft de la rédaction Touchdown Actu avec un numéro spécial pour ce rendez-vous hebdomadaire puisqu'on aborde dès à présent les previews, notamment en vue des prochaines fiches draft qui arrivent très prochainement à partir du 20 mars, notamment un état des lieux, même si on a déjà commencé à évoquer certaines têtes d'affiches. On va dresser la première partie du top 100 qui sera publié sur le site dans quelques heures à peine en s'intéressant notamment à ce qui constitue pour nous le top 15 des meilleurs joueurs intrinsèquement de cette classe. Et pour en parler donc en ma compagnie, on a Victor Roulier. Salut Victor.
Bonjour à tous.
Et Alexandre Locke, toujours des nôtres. Salut Alex.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Et on va parler beaucoup attaque. Alors, je le précise déjà pour la parenthèse, en s'excusant auprès de nos auditeurs, puisque on s'était arrêté notamment sur l'état des franchises, avec notamment les New York Giants et les San Francisco 49ers. On n'oublie pas les autres franchises. L'idée, c'était avant tout de faire un premier état des lieux, notamment concernant les franchises les plus à la peine au cours de la saison régulière. On n'oubliera pas de revenir en détail sur chaque franchise après la Free Agency, par le biais notamment des capsules audio d'environ 10 minutes qui seront faites donc à partir du mois de mars et qui vous accompagneront chaque jour pendant 32 jours jusqu'à l'échéance finale de cette draft 2021. Mais maintenant que les choses sont dites et que le décor est planté, on s'intéresse dès à présent au top 15 en commençant notamment par le quintet de tête.
Ok, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU.
Et on commence donc par ce top 5 avec, je le disais, l'attaque mise à l'honneur et notamment les quarterbacks. Et le premier de ce top 100, c'est un nom qu'on connaît assez bien, sur lequel on est revenu assez souvent ces dernières semaines. C'est Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, champion national et opportunité surtout à saisir absolument pour une franchise en cette QV 2021. N'est-il pas, monsieur Roulier?
Oui. Je pense que ça fait peu de doutes. C'est ce genre d'année où on commence à réfléchir à partir du numéro 2. Mais le numéro 1 est assez clair. C'est pas comme si on le découvrait aujourd'hui. Hein. Ça fait 3 ans que tout le monde nous annonce qu'il sera numéro 1. Parfois, les choses changent. Parfois, elles ne changent pas. Pour lui, elles n'ont pas changé. Voilà, il est mobile. Moi, j'aime bien dire que c'est Peyton Manning en moderne. C'est-à-dire avec une mobilité vraiment suffisante pour la NFL d'aujourd'hui, un déplacement vraiment extraordinaire pour son gabarit. C'est un lanceur formidable. Il a très peu de défauts. On en a un peu parlé, parfois sur les passes longues, parfois sur des petits problèmes de vision, mais globalement, difficile de faire un autre choix en numéro 1.
Ouais, Alex, tu rejoins globalement ce point de vue-là. C'est difficile quand même de de considérer un autre choix encore plus pour une équipe des Jaguars, par exemple, numéro 1 de la draft et qui a un besoin sur cette position.
Exactement, les Jaguars, ils ont besoin d'un QB. Depuis sa première passe en 2018, on sait qu'il va être numéro 1 de la draft, donc il n'y a pas vraiment de surprise ni de débat. Comme je l'avais dit dans une précédente émission, même s'il venait à se blesser dans les prochaines semaines, hormis s'arracher vraiment un pied ou son bras, il sera sélectionné en numéro 1, il n'y a absolument pas de doute, c'est le plus grand talent de l'année.
C'est sûr, hein, s'il s'arrache son bras avec la fameuse puissance qui va avec,
c'est un peu compliqué. Il lancera du bras gauche, c'est pas grave.
Oui, c'est ça, ouais. Cet homme est plein de ressources, sachez-le. Mais oui, alors voilà, c'est ça. On va pas faire un doublon de la fiche draft, mais oui, c'est vrai, Victor parlait notamment de ses soucis sur passe longue. Il y a peut-être aussi ce côté un petit peu à en faire trop, à vouloir absolument faire le show, on va dire, à pas vouloir s'avouer vaincu qui peut lui jouer des tours. Mais oui, il y a quand même beaucoup de cases qui sont de toute façon cochées pour les scouts pour en faire un numéro 1 absolu. Le numéro 2, qui n'a pas joué la campagne 2020, mais qui paraît quand même assez consensuel également, Alex, c'est le tackle d'Oregon, Penei Sewell. On sait que les deux positions hein, qui sont souvent très recherchées dans la draft, c'est ce poste de quarterback et de tackle côté aveugle. Là, a priori, Sewell, ça paraît quand même un bon point d'ancrage côté gauche.
Oui, clairement. Après, il a aussi l'avantage de pouvoir certainement jouer un peu partout sur la ligne. C'est vraiment lui aussi un prospect générationnel, très probablement. Comme je suis un peu gêné qu'il n'ait pas joué cette année, parce que l'année dernière, il bénéficiait aussi d'une escouade avec lui qui était vraiment très performante. Il aurait peut-être été plus sollicité cette année, donc j'aurais bien aimé le voir. Moi, je ne l'ai pas forcément en deux sur mon à titre purement personnel, mais clairement c'est un super talent. C'est un super talent et la franchise qui pourrait mettre la main dessus, donc peut-être les Dolphins, peut-être les Bengals, ça pourra faire que la joie de leur quarterback.
Oui, tout à fait. Alors je vais être tout à fait transparent. Sewell est 2 sur mon board et je crois que Victor elle avait en 4 et toi Alex en 3. Donc voilà, ça reste encore une fois quand même des choix assez assez consensuel malgré tout. Victor, est-ce que c'est le tackle peut-être le plus établi de cette classe à l'instant où on se parle, ou il y a quand même un plafond qui reste un peu dur à déterminer.
Mais oui, il est brut techniquement, et c'est vrai qu'une année de plus lui aurait fait du bien. Après, je vais dire que dans les joueurs qui n'ont pas joué en 2020, qui ont opt-out comme on dit, et on va en croiser un certain nombre dans le top 15 et dans le top 100, il y a quand même plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont vraiment une année, et c'est tout. Ouais. On va parler notamment d'un receveur très regardé, mais on pourrait en parler d'autres joueurs. Et il y a quand même des joueurs qui ont opt-out, mais qui ont un peu plus de temps de jeu, un peu plus de cassettes à montrer aux scouts, et qui vont rassurer les scouts. Et je pense notamment à Penei Sewell. C'est une force physique incroyable. Et si vraiment le seul problème pour son plafond, c'est de lui faire travailler la technique, bah quoi de mieux que d'apprendre en NFL ? À un moment, si c'est un joueur travailleur, il va y arriver. C'est vrai que, bon, après, on peut jamais être sûr qu'un joueur va être all-pro. Hein. Enfin, on pense à un Eric Fisher ou quoi, qui était numéro 1 de draft, si je dis pas de bêtises. Parfois, ils deviennent juste des bons titulaires. Je pense que Sewell a tout pour réussir. Mais c'est vrai que cet opt-out rajoute cette petite dose d'incertitude sur peut-il progresser autant qu'on le projette. Voilà. C'est un peu la jurisprudence de Marvin Wilson, j'en parle juste 10 secondes, mais c'est un joueur qui était projeté top 15 avant la saison, qui maintenant est projeté deuxième ou troisième tour, et on se dit, si lui a perdu 2 tours en ayant joué en 2020, est-ce que certains joueurs qui ont opt-out n'auraient pas connu la même chute ?
Oui, non, c'est sûr. Après, voilà, c'est vrai que... En effet, il y a forcément ce point d'interrogation qui, comme d'autres prospects, va être mis en avant. Mais voilà, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est un peu ce qu'expliquait Alex tout à l'heure avec Trevor Lawrence. C'est-à-dire que Penei Sewell, dès son arrivée sur le campus de Eugene, ça a été un titulaire indiscutable. Rapidement implanté à gauche en plus, c'était un tackle qui était déjà dominant à peine 19 ans. Donc ouais, non, on sent quand même qu'il y a une certaine maturité au-delà de la force brute. Et ça fait quand même pas trop de doute de s'attendre à ce qu'il soit vraiment une éponge en NFL et qu'il sache vraiment se remettre en question suffisamment avec un coaching staff capable de l'entourer. Ça peut vraiment être un joueur extrêmement redoutable et en effet, All Pro, relativement rapidement d'ici, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de franchises dans lesquelles il pourrait rapidement s'intégrer avec succès. Mais en tout cas, si tout se goupille relativement correctement. On en vient au troisième choix, messieurs. Alors, on va arriver dans les choix un peu plus discutables. Alors, je vais le dire d'emblée. En numéro 3, j'avais casé Kyle Pitts, tight end de Florida. Ça peut en faire hurler certains, à raison. On sait que la position de tight end n'est pas forcément la plus sexy, mais Victor, a-t-on affaire vraiment à un tight end ? Parce que on se pose la question, du coup, de savoir si c'est Jamar Chase ou Devonta Smith le meilleur receveur de cette classe. Mais encore...
Est-ce que c'est pas Kyle Pitts ?
Bah, alors, moi, encore une fois, moi, c'est surtout la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les tight ends, malgré tout, même si c'est un peu moins flagrant qu'à une certaine époque, ont une place prépondérante en NFL. Là, pour le coup, si tu as besoin d'un tight end capable d'être menaçant dans n'importe quelle zone pour capter des ballons, Kyle Pitts, c'est le choix rêvé.
Oui, c'est Darren Waller 3.0. C'est-à-dire que c'est des joueurs qu'on va voir de plus en plus. Je disais dans un article, je crois que c'est The Draft Network, mais où il disait c'est ni un tight end, ni un receveur, c'est une arme offensive. Mmh. Et c'est vrai que c'est un peu ça l'idée. C'est un joueur tellement polyvalent. Vous pouvez l'aligner en slot, vous pouvez l'aligner en tight end classique. Vous pouvez même l'aligner en receveur extérieur, si c'est pas choquant. C'est vraiment un joueur qui sait tout faire. Et alors, les linebackers vont être soit trop petits, soit trop grands pour lui. Enfin, soit trop petits, soit trop lents, du coup. Mais ça va être une horreur. Ça va être une horreur de marquer ce genre de phénomène. Et il peut vraiment exploser dès sa première année. Je pense que c'est vrai que ça va surprendre beaucoup de gens de voir un tight end en numéro 3 du classement. Mais en soi, quand on le regarde sur le terrain et quand on voit ce qu'il apporte à une attaque... C'est pas si étonnant que ça.
Ouais, Alex, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que mine de rien, quand on regarde, je parlais de l'importance des tight ends, on rappelle que Chiefs Niners au Super Bowl 54, c'est peut-être les deux meilleurs tight ends du moment qui s'affrontaient cette année-là. Et l'année passée, on avait de nouveau Kelsey contre un Gronkowski, certes vieillissant sur le retour, mais qui a eu quand même un impact non négligeable et qui reste le tight end légendaire qu'on a connu. Donc ça peut, dans une copycat league, éventuellement être un choix un peu séduisant pour une franchise.
Oui, ça peut être un choix séduisant. Bon, après, c'est peut-être effectivement le meilleur receveur finalement de la QV. Moi, ce qui me gêne un petit peu justement pour un tight end, c'est que ses qualités de bloc sont encore à améliorer. Maintenant, pour un tight end, on a coutume de dire qu'un tight end, ça performe jamais vraiment la première année. Comme l'a dit Victor, lui, il est tout à fait à même d'être efficace et productif dès la première semaine en septembre 2021. Mm-hmm. Ce qui n'a pas été le cas d'un TJ Hockenson, qui est le dernier tight end qui a été choisi dans le top 10. Donc oui, partant de ce principe-là, sa présence à minima dans le top 5 des talents, c'est pas du tout une surprise. Mais moi, pour vraiment valider un top 3, j'aurais aimé qu'il ait vraiment le total package du tight end, parce qu'il est quand même listé comme un tight end.
Bah voilà, c'est là en effet, et tu mets le doigt sur un point intéressant, voilà, c'est cette aptitude au bloc où il ne déshonore pas, mais c'est vrai que dans une attaque de Florida où forcément ça jouait quand même très écarté, où forcément on misait avant tout sur ses qualités de receveur, c'est pas forcément le critère qui est ressorti le plus en avant. Si on prend les principaux tight ends qui sont sortis ces dernières années, il a plus, je trouve, le profil, par exemple, d'Evan Ingram, qui était, je trouve, là aussi hyper menaçant à la réception dans un système offensif aérien très bien huilé du côté d'Ole Miss, plutôt qu'un TJ Hockenson que tu citais, qui est sorti numéro 7, mais avec de meilleures aptitudes, notamment sur le bloc. Donc, c'est vrai que c'est là, en effet, où il va y avoir des points d'interrogation à gommer. Surtout que, sauf erreur de ma part, Kyle Pitts a quand même eu des petits soucis de blessure, notamment lors de sa dernière saison. Et que ça reste quand même pas négligeable pour un joueur qui est censé aller un petit peu au charbon de temps en temps dans les attaques modernes. Quoi. On passe au numéro 4 à présent, et on va rester sur des receveurs, des vrais receveurs en l'occurrence, et sauf erreur de ma part, le numéro 4 est donc Jamar Chase, receveur donc d'LSU, un de ces nombreux joueurs, Alex, qui a décidé de se mettre en retrait par rapport à la crise sanitaire. Et j'imagine que c'est le joueur dont parlait Victor sur sa fameuse seule année sur le tableau. Alors, il a quand même pas fait une mauvaise saison freshman, je trouve, même si forcément c'est pas les chiffres hallucinants de sa saison sophomore avec Joe Burrow. Mais en tout cas, on a un beau spécimen quand même sur le poste de receveur.
Oui, alors je vais redire ce que j'ai dit lors du live la semaine dernière. Clairement, là aussi, le opt-out peut poser des questions parce qu'il faisait partie l'année dernière, ce que j'ai dit, le terme, j'ai utilisé le terme football champagne avec l'ami Joe Burrow. Et cette année où ça a été un petit peu plus compliqué, un poil plus compliqué pour LSU, j'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait pu apporter parce qu'il n'est pas du tout certain qu'il tombe sur un système ou un quarterback qui le mette en avant, notamment s'il tombe au choix numéro 6, par exemple.
On ne voit pas de qui tu
parles. C'est pas forcément les Eagles, hein, attention.
Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il a prouvé que c'était un super joueur. Il a des mains super fiables. Il a un arbre de tracé hyper complet. Ça sera une solution de sécurité. Ça sera un receveur de possession. Ça sera un peu tout, en fait, pour sa future franchise. Donc, clairement, c'est un super talent. Mais là aussi, moi j'ai vraiment été gêné cette année par tous ces opt-outs. Enfin, je peux les comprendre, mais c'est difficile pour vraiment évaluer la pérennité d'un talent ou de la pérennité d'une production, surtout pour des attaquants comme ça.
Oui, non, c'est sûr que ça aide pas. Et je trouve encore plus, d'ailleurs, sur une position, ça, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, c'est vrai que par exemple, c'est le challenge qu'a choisi de relever, alors même s'il a été moins coté en l'occurrence, un Terrace Marshall à LSU. Et on voit que le fait d'être resté une année de plus, justement, dans une attaque qui était un peu plus dans la démerde, si je peux parler ainsi, mais en tout cas qui était clairement en nette reconstruction, on a vu que le fait justement de réussir à surnager de nouveau cette année-là, ça l'a clairement aidé parce que ça en fait clairement un potentiel premier tour à l'heure où on se parle. Après, voilà, c'est sûr que Marshall avait peut-être plus à gagner et Ja'Marr Chase plus à perdre dans ce cas de figure-là, mais je te rejoins, en effet, c'est un point d'interrogation important qui sera à soulever là-dessus. Victor, alors on va parler du cinquième tout à l'heure avec qui est également un receveur. Il y a quand même beaucoup, je trouve, la donnée purement athlétique et physique qui peut jouer quand même en la faveur de Ja'Marr Chase si on cherche le meilleur receveur pur du plateau.
Disons qu'il est passe-partout. Ce que ne vont pas être les deux suivants, c'est un joueur qui peut globalement évoluer dans tous les systèmes. Physiquement, il a le corps pour affronter à peu près tous les cornerbacks de la ligue. Il n'a pas vraiment de défaut, franchement. Sur le terrain, en tout cas, on n'en a pas vu beaucoup. Ses routes, ses mains, son placement du corps, tout est bon. C'est vraiment un joueur intelligent. Et honnêtement, il y a un potentiel domination, je dirais niveau Julio Jones, quoi. Vraiment, le genre de receveur, on ne voit pas ça tous les ans, quoi. Si vraiment il exploite son potentiel, ça peut devenir un joueur dominant comme on en voit une fois tous les 5-10 ans.
Bah après, c'est des alors comparaison n'est pas raison, mais très clairement, pour la reprendre, la folle année de LSU l'année passée, il avait posé des soucis notamment à Patrick Surtain contre Alabama, qui reste l'un des tout premiers cornerbacks de cette classe. Et puis, alors, on s'est beaucoup moqué, notamment, il n'a pas fait une saison rookie extraordinaire, mais quand on prend par exemple un AJ Terrell à Atlanta, qui n'a pas fait une mauvaise campagne rookie, en tout cas qui s'est bien repris au fur et à mesure, on se rappelle qu'il lui a fait vivre un enfer en finale nationale. Donc, il n'a pas non plus affronté que des peintres en 2019, et en effet, quand il les a affrontés, bon, il a quand même plus que surnagé, je trouve. Donc c'est vrai que là aussi, voilà, il y a forcément ce mystère de la saison 2020, dans quel état de forme concret il va arriver. Mais oui, ça reste quand même forcément un choix très, très sexy sur le papier. Tu veux
Il
enchaîner?
avait marché sur Diggs aussi, je crois,
Ah oui,
si
oui.
je dis pas
Ouais,
de
ouais,
bêtises.
ouais. Oui, il a peut-être même dû le croiser un peu plus que Surtain. T'as raison là-dessus. Et Trevon Diggs qui a fait une très bonne campagne, je trouve, rookie du côté de Dallas. Donc, en effet, c'est à mettre également à
sponsorisé par Carson Wentz, sa bonne saison rookie, mais ouais.
Très bien. Bon. Sur ce, on passe au numéro 5 avec un autre receveur. En l'occurrence, Victor, t'allais déjà enchaîner quasiment dessus, mais il y a forcément cette comparaison entre Ja'Marr Chase et Devonta Smith. Devonta Smith, on le rappelle, meilleur joueur universitaire de la saison 2020, pourtant toujours ce profil atypique et ce gabarit qui peut-être en effrayer quelques-uns malgré tout.
Ah bah c'est extrêmement léger, et alors ce qu'a rajouté un peu quand même à l'obscurité autour de Devonta Smith, c'est qu'il a refusé de se faire mesurer, peser... quand il en a eu l'occasion là au Senior Bowl, donc bon, ça c'est un joueur C'est exactement comme Marvin Harrison, pour ceux qui regardaient dans les années 2000 le comparse Peyton Manning. Il n'est pas assez grand, il n'est pas assez lourd, il n'est pas assez rapide. Donc tu ne comprends pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Et ça marche super bien. C'est vraiment un joueur qui est extrêmement explosif, extrêmement intelligent. Il crée la séparation, pas tellement parce que c'est une pile électrique ou parce qu'il aura un gros physique. Non, parce qu'il est propre, il est soudain dans ses mouvements. Et il va faire la différence, et là encore, cette année, il n'a quand même pas affronté que des peintres. Et il a marché sur tout le monde. Il a mis 200 yards sur tout le monde, c'était absolument incroyable. Donc à un moment, on ne peut pas ignorer, c'est le premier receveur Iceman depuis 20 ans ou 30 ans. 30 ans même, je crois, début des années 90. Voilà, c'est un potentiel incroyable. Mais alors par contre, c'est pas pour tous les systèmes. Et je pense, malheureusement, parce que c'est comme ça que la NFL marche, que le fait qu'il soit aussi léger et pas forcément très grand, très athlétique, il va être éliminé par certaines franchises. Donc contrairement à Chase, qui pourrait correspondre à tout le monde, là, il ne va pas correspondre à tout le monde. Mais si on donne juste une petite image, c'est ce genre de joueur qui, dans un dispositif type 49ers, pourrait faire des miracles, je trouve. Eux qui savent tellement bien exploiter les qualités des receveurs. Vous pouvez lui donner la balle en screen, vous pouvez lui donner la balle en tracé court, en tracé intermédiaire, en tracé long. Il peut tout transformer en or. Donc j'adore ce joueur, mais c'est vrai que c'est un profil qu'on ne voit pas souvent.
C'est ça, c'est un profil qu'il faut aimer. Alors je crois, Alex, que c'est un profil que tu apprécies, hein, puisque ce erreur de ma part, il était numéro 2 de ton board personnel, juste derrière Trevor Lawrence. Victor le disait, un joueur absolument dangereux partout et un potentiel numéro 1 très clair en NFL.
Ouais, Davante Smith, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que en 2019, on s'est dit, il va être éteint derrière Ruggs et Jeudy, on va pas le voir. Il va pas exister. Bah, il a existé, il a fait une très belle saison. Cette année, on s'est dit, enfin, je dis on, peut-être que c'est juste moi, hein, mais on pensait, bon, il y a plus toi, il y a plus Jeudy et Ruggs pour attirer les défenseurs ailleurs, donc ça va moins rigoler. Bah, ça a rigolé, et ça a hyper rigolé. Donc, les réserves qu'il y a maintenant sur sa future carrière en NFL, bah, je les vois sur le même principe, en fait. On pense qu'il va se faire secouer parce qu'il est léger, parce qu'il a des jambes de coureur d'athlétisme. Et je pense que ça va marcher. Il a un talent incroyable. C'est un playmaker fantastique. Donc, il n'y a aucune raison. Pour moi, il va encore faire taire les sceptiques et ça va marcher.
Oui, parce que c'est encore une fois, c'est un joueur assez intelligent. Hein. C'est pas parce qu'il a un gabarit relativement frêle pour beaucoup que c'est un joueur qui va rechigner sur le bloc. Hein. On l'a vu sur de nombreuses courses de Najee Harris, ne pas hésiter à aller au contact. On sait également, pour continuer sur le panel assez vaste, que ça reste un joueur extrêmement précieux sur retour de coup de pied. Donc ouais, franchement, il n'y a pas grand-chose à acheter dans son jeu, à part encore une fois, si oui, on est un vieux de la vieille NFL et qu'on fait une fixette. Sur le côté, bah ouais, mais dis donc, ils sont où les muscles ? T'as pas assez poussé la fonte, etc. quoi. Donc voilà, mais ça va être en tout cas un joueur très, très intriguant à voir. Et ce serait quand même très, très étonnant qu'il passe déjà le top 10, voire le top 6-7 quand on sait qu'il y a des équipes qui ont des besoins de receveurs. Mais voilà, on s'avancera pas encore. On va voir déjà les décisions qui vont être prises par les franchises par le biais de la Free Agency. On a fait le point sur ce top 5. On enchaîne désormais avec les positions 6 à 10.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Non, pas du tout. On n'a pas oublié les quarterbacks dans ce top 15. Rassurez-vous, déjà, on a parlé de Trevor Lawrence. On a deux quarterbacks un peu plus en retrait, encore que c'est pas non plus à des années-lumière. Et là, j'entends déjà certains de nos auditeurs hurler à la famille. Le numéro 6, Alex, n'est autre que Zach Wilson, quarterback de BYU. Alors j'avoue, j'ai pas revu vos boards personnels. Je vais essayer de reboucler ça. Mais en tout cas, on sait que forcément, il y aura, Il y aura de l'indécision entre Wilson et Fields, je pense. Je suis en train de voir. Ah non, là, j'ai classement de victoire. Tu l'avais, t'avais
moi,
Wilson avant ou Fields avant?
Moi, j'ai Wilson.
Ah, moi, j'ai Wilson en 6 et Fields en 11.
Et Alex, toi, t'avais Wilson,
j'ai Wilson en
4
et Fields en 11 aussi.
Très bien. Très bien. Bah, alors, dis-nous un petit peu.
les amateurs de Justin Fields vont nous adorer.
Allez, il y a un contrat sur nos têtes, je vous le dis, les gars. Bon, Zach Wilson, en tout cas, on s'en doutait un petit peu malgré tout. C'est toujours un petit peu le. J'ai presque envie de dire une question de momentum, notamment encore plus sur ses positions. C'est que forcément, on a un Zach Wilson qui a crevé l'écran en 2020, Alex. Alors, certains évoquent notamment un calendrier peut-être pas aussi monstrueux, mais en tout cas, la marge de progression, elle est là et elle a quand même été tonitruante sur le dernier exercice.
Exactement, la marge de progression, elle est là et elle est linéaire, enfin linéaire, non plus que linéaire depuis trois saisons. Il a vraiment progressé, il n'y a qu'à voir ses lignes de statistiques. C'est un joueur qui a montré qu'il avait ce grain de folie ou, enfin, qui peut permettre de mettre le feu à un match. Il est imprévisible, il est immobile dans sa poche, il fait des passes dans toutes les positions. Alors, comme tu l'as dit, on est dans une copycat league, donc il y en a certains qui vont voir en lui un petit peu de Patrick Mahomes, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on le fait monter aussi haut dans nos big boards. Mais la façon dont il a progressé laisse à penser qu'il y a un très bel avenir devant lui. Pour moi, son plafond, il est encore loin de l'avoir atteint. Donc, c'est vraiment un joueur qui semble avoir un bel avenir.
Ouais, clairement. Ouais, vas-y.
Non, j'allais dire, il a montré qu'il avait un super bras. Le seul petit chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est que face à l'équipe la plus solide de son calendrier, il a fait son plus mauvais match cette saison. Mais à part ça, comme tu l'as dit, peut-être par le momentum, mais c'est vraiment, pour moi, c'était un top 5 talent. Donc voilà, en 6, c'est mérité.
On sait que de toute façon, il y a beaucoup d'esprits offensifs en NFL qui se disent, qui salivent en voyant un nouveau quarterback un petit peu glamour qui arrive et qui se disent « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ?» C'est toujours ça qui fait que les quarterbacks grimpent un petit peu plus et nul doute que c'est ce qui fera grimper Zach Wilson. Victoire, pour le coup, Zach Wilson, on insiste beaucoup sur le fait qu'il y avait un bon backfield offensif à BYU, il y avait une super ligne offensive. En attendant, il n'y avait pas toujours d'excellents receveurs, même si Dax Milne a fait une bonne campagne. Il perd Matt Bushman sur blessure très rapidement. Donc malgré tout, c'est quand même un joueur qui est capable de s'adapter, qui a de la ressource, en tout cas pour réussir à emmener une équipe de Brigham Young, qui ces dernières années n'était pas forcément réputée pour un super jeu aérien.
Non, c'est sûr. Et c'est de toute façon, le débat Wilson-Fields et le débat qu'on aura en cornerback aussi, c'est une question d'appétence au risque. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui a un très haut plafond, mais un très bas plancher, et il y a un joueur qui rassure plus, parce que son plafond est peut-être plus bas, mais son plancher est plus haut. Mmh. Ici, on a un joueur... Tu parlais de momentum. Il y a le momentum dans le sens... il a fait une bonne saison. Il y a le momentum dans le sens... La NFL ne regarde que Patrick Mahomes. Et aujourd'hui, le joueur qui est peut-être le plus comparable à ce qu'était Mahomes, à la sortie d'université, c'est Zach Wilson. Ce côté un peu insaisissable, ce côté créatif qui va prolonger le jeu jusqu'à trouver un receveur démarqué parce qu'il aura offert les 2, 3, 4 secondes qui permettent à son receveur de faire la différence. Donc oui, c'est un joueur qui peut dynamiter un match. Alors c'est sûr que ça comporte une part de risque énorme. C'est sûr que l'adversité n'était pas incroyable contre BYU, mais globalement, c'est un joueur aujourd'hui qui fait rêver beaucoup plus que d'autres parce que voilà, il y a ce côté feu follet qu'on retrouve pas partout. Et si ça passe en NFL, s'il arrive à passer le cap, il peut devenir vraiment, vraiment une tendance très rapide dans cette ligue.
Oui, c'est ça. Bon, après, la bonne nouvelle pour lui, c'est que du coup, Adam Gase n'est plus aux Jets, par exemple. S'ils veulent le recruter, ce sera déjà une bonne chose. Mais très clairement, oui, ça peut. Il y a une marge de progression intéressante. Est-ce qu'il sera prêt dès le premier jour? Je sais pas. C'est peut-être
non,
un joueur qui sera intéressant à trouver dans un premier temps.
Je pense qu'il faut faire comme Patrick Mahomes à l'époque. Ouais, mais Tyreek Hill l'a dit hein, en interview. Il disait Mahomes, quand il est arrivé, c'était pas extraordinaire. Et puis finalement, il a appris très vite. Mais là, je pense que c'est un peu pareil. Si tu le mets dès la semaine 1, ça va pas être extraordinaire. Je pense vraiment qu'il faut le faire travailler. Alors, tu le fais rentrer semaine 10 ou tu le fais pas jouer de la première saison, qu'importe. Mais oui, je pense qu'il a besoin de mûrir. Et globalement, j'ai envie de dire que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de joueurs de ce top 15. C'est vrai que ce sera peut-être pas le cas de l'autre quarterback dont on va parler, mais voilà, c'est des joueurs qui ont besoin d'être mis sous couveuse.
C'est sûr. Parlons de joueurs qui doivent être mis sous couveuse. Est-ce que tu veux nous parler du numéro 7 de ce classement ? Justin Fields, quarterback d'Ohio State. Encore une fois, joueur extrêmement précis tout au long de sa carrière universitaire. Qui a vraiment affolé les compteurs, notamment depuis son arrivée à Ohio State, hein, parce qu'il y a eu une année, j'allais dire un petit peu blanche, où il est allé à Georgia et où il a été benché au profit de Jake Fromm à l'époque. En attendant, il a parfaitement su rebondir à Ohio State. C'est pas sans rappeler par exemple un Kyler Murray qui avait pas réussi à Texas A&M et qui après avait explosé à Oklahoma. Maintenant,
Joe Burrow aussi, hein.
Ou Burrow également, qui avait quitté justement Ohio State pour aller à LSU, bien sûr. Maintenant, il y a toujours cette pression, et je pense que c'est ça qui le dessert. Alex te donnera son point de vue tout à l'heure. C'est peut-être sous pression que c'est un joueur qui inquiète le plus.
C'est ça. C'est un peu tout le problème de Justin Fields. Il est rassurant dans le sens où en saison régulière, ça sera à mon avis un joueur constant qui peut être globalement solide. Et il a tout pour, je veux dire, la puissance de bras est largement suffisante.
Oui, il l'a montré contre Clemson en demi-finale, notamment cette année.
Ouais, mais justement, je vais y venir, d'accord. C'est que l'athlétique, il l'a aussi, et la précision, il l'a. C'est vrai qu'il avait eu tendance à souvent s'écrouler sous la pression, à prendre un peu trop de sacs, et parfois il perd un peu la tête quand il doit manipuler dans la poche. Et c'est vrai que j'avais réclamé, au moment où on a fait notre premier épisode, toi et moi, Grégory, un gros match de play-off de sa part. Mm-hmm. Bon, il l'a fait quand même, son gros match de play-off. Alors, on va pas lui enlever. Mm-hmm. Il a plutôt fait une sacrée démonstration. Donc, je pense qu'il a prouvé qu'il peut le faire, mais ça reste encore, pour moi, un peu fragile. Dans le sens où, voilà, c'est vraiment le quarterback.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Typique qui est moyen plus, vraiment il peut tout faire, mais il n'a pas cette étincelle qui fait qu'il va porter son équipe. Et j'ai jamais ressenti à un moment chez lui ce côté un peu l'équipe est sur son dos et il les porte quoi. Alors je suis peut-être trop dur, hein. Certains vont me dire en demi-finale peut-être que certains considèrent qu'il porte son équipe. Moi je pense qu'il y a eu d'autres acteurs, mais voilà, c'est un joueur, je l'aime bien. Mais j'arrive pas à me dire ce joueur va être un franchise quarterback.
Alex, t'as un point de vue sur Justin Fields? Enfin, en tout cas, un point positif ou un point négatif qu'on n'aurait pas évoqué et qui ferait que éventuellement, qui serait à considérer en vue de la prochaine draft?
Globalement, je rejoins Victor sur son analyse. Moi, Justin Fields, dans son profil et dans ses qualités et ses défauts, il me rappelle un petit peu Dak Prescott. C'est-à-dire, quand tout se passe bien, quand il est derrière, quand sa ligne tient bon, quand il est dans de bonnes conditions, il est bon, il est très bon, il est fiable, il est précis, il n'y a aucun problème. Dès que ça commence à se perturber, dès qu'on lui demande de prendre le match en main à lui tout seul, ça devient un peu plus compliqué. Victor l'a dit, quand il y a la pression, il a tendance un petit peu, il baisse la tête et voilà, il est moins performant par exemple qu'un Wilson dans ce genre de situation. Et voilà, ce qui me pose souci, c'est ça, c'est que S'il est mis derrière une grosse ligne, ça sera un bon QB, il n'y a aucun problème a priori. Le problème, c'est quand ça va quand ça va se compliquer, si on attend de lui de gagner un match en play-off, bah, voilà, à l'image d'un Dak Prescott, je pense qu'il y aura un plafond de verre.
Est-ce que l'échelle d'Alex Smith va un jour devenir l'échelle Justin Fields? C'est ça la vraie question.
Là, ça reste à voir, mais ouais, non, en tout cas, c'est un joueur très polarisant, encore une fois, de par ce qu'on évoquait, c'est-à-dire ce côté vraiment à être clutch tout en pouvant être un peu inquiétant en fonction des situations de jeu, de jamais montrer le même visage, on dira, en fonction des snaps. C'est là aussi où ça reste à voir. Alors ça, c'est mon point de vue purement personnel, hein. Encore une fois, je ne dis pas que ça aura une incidence vis-à-vis des scouts, parce que c'est deux styles de jeu totalement différents. Est-ce que peut-être des scouts vont pas être un petit peu freinés par l'expérience d'Wayne Haskins, qui dans le système Ryan Day, même si très clairement Haskins n'avait pas la mobilité qu'a Justin Fields, on sait que dans c'est la NFL clair. Moderne, c'est clairement un atout non négligeable à la disposition de l'actuel quarterback, de l'actuel futur ex. Compliqué cette phrase, quarterback des Buckeyes. Mais voilà, à voir éventuellement si c'est un système offensif où il y a quand même très souvent des receveurs, je trouve, pas mal démarqués. Est-ce que éventuellement ça va pas être à son détriment? Je sais pas. Ça l'empêchera pas d'être dans le top 5, hein, entendons-nous bien.
Mais Haskins, c'était vraiment une seule saison pour le coup.
Oui.
C'est vraiment. Il y a une saison et pas plus.
Non,
Fields, il y a quand même un peu plus de bagages. Et du coup, je me sens quand même... Alors oui, il y a toujours, on l'entend, hein, ces interrogations sur le système de Ohio State, etc. Mais il me rassure quand même plus qu'un Haskins.
Oui,
vraiment, Haskins,
oui,
j'avais l'impression de jouer à la roulette russe. Et il y a un moment, t'as une chance sur six que ça parte, mais...
C'est sûr. Et je pense que mentalement, ouais, Fields a l'air quand même un peu plus costaud qu'Haskins,
ouais,
très
ouais,
clairement.
Et dans sa tête, il a l'air un peu plus posé que Haskins aussi.
C'est ça. Je vous propose, messieurs, d'enchaîner carrément deux prospects en même temps, hein, parce que tu le disais tout à l'heure, il y a cette comparaison, il y a des joueurs qui sont sur la même position et en effet qui sont à prendre sur des critères différents. Donc je vais me permettre de lancer le sujet là-dessus. Numéro 8, on a Patrick Surtain d'Alabama. Numéro 9, Caleb Farley de Virginia Tech. Deux cornerbacks hyper prisés de cette classe avec deux problématiques différentes. Du coup, je vais te poser la question, mon cher Alex. Est-ce que toi déjà, tu as une préférence particulière entre les deux? Est-ce que tu es plus Surtain ou plus Farley?
Je suis un petit peu plus Surtain par ses qualités déjà acquises. Il est très fiable. Par contre, comme l'avait dit Victor dans une émission précédente, c'est vrai que Farley a l'air d'avoir peut-être un plafond et un potentiel supérieur. Pour moi, les deux seront pris dans le top 10, ça fait quasiment aucun doute. Mais pour une équipe qui cherche vraiment un numéro 1 quasiment tout de suite, j'irai davantage sur Surtain. Voilà, il a montré 3 années à Alabama, le titre. Je pense que il apporte beaucoup de garanties dans différents aspects de son jeu. Il est moins rapide, mais il est moins flashy, mais il est très fiable.
Victor, je te laisserai développer un petit peu également, mais est-ce que si je prends un petit peu le format Surtain, c'est un peu le côté presse mise en respect, on dira, de l'adversaire? Caleb Farley peut-être un petit peu plus flashy, justement un petit peu plus facétieux dans sa manière de défendre et dans le côté agressif, notamment en couverture. Est-ce que ça te convient comme image?
Oui, c'est à peu près ça. Oui, oui. Oui, c'est ça.
Victor, t'as un point de vue là-dessus?
Ah bah moi je suis un Farley Boy, moi. Moi je suis un
Farley
Boy,
carrément.
Farley Boy. Ah bah clairement. Ah non, mais moi clairement, je trouve qu'il est... Il est rapide, il est physique, c'est un playmaker. Alors, en réalité, je vous rejoins évidemment, il y a ce côté un peu risqué chez Farley qui fait que finalement, il finira peut-être à la Marcus Peters, ces joueurs qui font deux interceptions mais qui parfois se trouent complètement.
Joueur qui n'a pas joué en 2020, je ne l'ai pas dit, mais contrairement à certains...
Oui, il a
joué...
opt-out,
ouais.
Tout à fait, et du coup, ça rajoute à l'incertitude. Je pense qu'il, voilà, c'est l'appétence au risque, encore une fois. Il a un plus gros potentiel, mais Surtain est beaucoup plus rassurant. Tu l'as dit, en presse, par exemple, beaucoup plus Surtain. Sur une défense de zone, j'ai du mal à voir Farley, pour le coup. Je verrais plus un Surtain, voire plus un autre cornerback dont on parlera, mais je trouve que en homme à homme, Farley, c'est vraiment un joueur que je trouve extraordinaire. Certain, il y a ce déficit de vitesse qui me fait parfois un peu peur. Je dirais que ça dépend vraiment de qui il affronte. Mais il y a des match-ups où il va vraiment souffrir. Je lui souhaite pas d'affronter Tyreek Hill deux fois par an. Et pourtant, je pense qu'une défense un peu plus stable, un peu plus schématique en zone pourrait mieux lui convenir. Donc j'ai envie de dire que ça dépendra des systèmes, mais j'avais une grande affection pour Patrick Surtain de papa, donc je suivrai le fils avec attention.
Mais alors c'est vrai que pour prendre une image un petit peu ce qu'on parlait du papa, c'est vrai que si on veut comparer les deux profils, pour ceux qui se rappellent notamment des Dolphins, notamment fin des années 90, Patrick Surtain est plus comme son père et Caleb Farley c'est plus un profil à la Sam Madison. Pour certains iront voir éventuellement plus concrètement, mais voilà, c'est plus ces deux profils totalement différents, mais qui peuvent être ô combien précieux en l'occurrence pour les franchises qui les récupéreront. On termine avec cette deuxième partie du top 15, le numéro 10, messieurs. Un joueur qui a peut-être un petit peu perdu de cote en raison de ses pépins physiques, n'est-il pas, monsieur Roulier, Jalen Waddle, receveur d'Alabama. Autre receveur d'Alabama, donc avec Devonta Smith, autre joueur au profil atypique. C'est une blessure embêtante, surtout pour un joueur qui joue avant tout sur l'explosivité.
C'est sûr, mais je ne suis pas sûr que ça lui portera tant préjudice que ça, voire même je réfléchissais, en fait, je faisais une petite comparaison avec l'année dernière. Vous savez, l'année dernière, on disait l'aime jeudi, qui sera le premier receveur choisi à la draft ? Et puis, il y avait Ruggs qui était un peu le troisième, quoi. Le très bon, hein, mais le troisième. Sauf que Ruggs, il a fini premier choisi des trois. Notamment parce que sa capacité de playmaker, aujourd'hui, ça attire beaucoup les franchises. On l'a dit, c'est des copycatiques. Des gens veulent devenir Kansas City. Ils veulent 17 playmakers dans leur attaque qui sont capables de faire 200 yards par match. Et moi, je me suis demandé, un profil comme Jalen Waddle, donc vraiment un... C'est une menace profonde, c'est de la vitesse extraordinaire, c'est un joueur d'équipe spéciale en retour, il peut être vraiment très bon. Alors bien sûr, il y aura le warning médical, mais je pense que c'est un joueur dont certaines franchises pourraient tomber vraiment amoureuses. Et par exemple, ça ne me choquerait pas qu'il finisse devant un Devonta Smith à la draft. Si une équipe veut un playmaker et a peut-être un peu peur du physique d'un Devonta Smith. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Attention au drop. Attention au drop, je regardais des vidéos la dernière fois et j'ai vu des stats de PFF. C'est vrai qu'il a parfois des mains un petit peu incertaines. Mais bon, s'il récupère de sa blessure à la cheville, c'est un potentiel playmaker extraordinaire en NFL.
Ouais, très clairement. Alex, t'as un avis sur Jalen Waddle. Est-ce que pour toi, comme par rapport à ce que disait Victor, ça peut être un invité surprise, entre guillemets, au milieu des deux principaux, ou est-ce qu'en effet, ces soucis de blessure t'inquiètent un peu plus ?
Bon, il faut savoir que moi, j'adore Jalen Waddle, mais vraiment de manière complètement irraisonnée depuis
que
je
l'ai... Waddle boy.
Voilà, je suis un Waddle boy.
Oui, d'accord. D'ailleurs, on le dit pas, hein, pour ça, certains n'ont pas les images, mais voilà, tous les posters de Jalen Waddle derrière toi.
Oui, avec ça. Ceux de JJ Watt, évidemment, parce que bon, oui, je suis toujours en campagne, hein, quand même.
Mais, et ceux de Jordan Love aussi, très beau.
Voilà, aussi. Ouais. Mais plus pour faire de la promotion pour de la vente. J'aime beaucoup Jalen Waddle, et effectivement, je serais pas du tout surpris. D'ailleurs... je consomme pas mal de mock draft et je l'ai vu plusieurs fois sortir avant les deux autres. Clairement, je pense que s'il s'était pas blessé, il y aurait peut-être même plus de débat, en fait. Il est tellement explosif, à l'image, oui, d'un Tyreek Hill ou d'autres petits gabarits super rapides. Il est exceptionnel sur retour de coup de pied. Et cette capacité à prendre les espaces... C'est un avaleur d'espace fantastique. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui doivent le surveiller et qui doivent se dire, avec un peu de chance, il va glisser jusqu'à nous grâce à cette blessure. C'est une blessure à la cheville, il s'est pas fait les croisés, donc je pense pas que ça soit rédhibitoire et qu'il perde tant que ça en explosivité.
Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le fait qu'il ait entre guillemets aggravé sa blessure en revenant pour la finale nationale. Mais on est d'accord qu'il y a des blessures beaucoup plus problématiques.
Absolue.
Après, il reste 8 mois avant la reprise, donc.
Oui.
Voilà, je suis pas inquiet, je serais pas surpris. Il est, voilà, comme je te dis, s'il avait pas été blessé, moi je l'aurais peut-être mis plus haut. Mais c'est, ça va être un joueur qui va marquer un maximum de touchdowns, je pense, en NFL. Et à suivre en avril, vraiment. On n'en tombera pas à la renverse s'il est pris avant Smith et même peut-être avant Chase.
Très bien. Bah, le message est passé dans ce top 10. Donc, fort de quarterback et de receveur, parce qu'on en a donc 6, voire 7, en fonction de comment on considère quel pit sur 10. Donc, c'est quand même assez notable. On termine avec ce top 15 tout de suite.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Et je vais vous proposer, messieurs, un autre face-à-face, du coup, pour les positions 11 et 12. Et on va parler main violente, on va parler tackle, tout ce que j'adore, avec un Rashawn Slater, numéro 11, le tackle de Northwestern, Christian Darrisaw, tackle de Virginia Tech, numéro 12, deux profils assez différents. En l'occurrence, Alex, vers qui vont tes préférences entre le tackle des Wildcats qui n'a pas joué en 2020 et celui des Hokies qui est vraiment monté en puissance au fil de la saison?
Et bien vers le second, vers Christian Darrisaw, que j'aime beaucoup, qu'on a vu effectivement exploser cette année. Slater n'a pas joué et je ne sais pas si ça lui portera préjudice ou au contraire si ça l'aide à se maintenir dans un top 15 ou dans un top 20. Darrisaw, il a vraiment profité de... Il a été avec un autre tackle... dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui sera dans le top 100. Il a été le meilleur tackle de l'année. Il a une envergure fantastique. Il est hyper mobile. Il suit son vis-à-vis. C'est vraiment il est hyper fiable. Pour moi, c'est vraiment le prototype du tackle côté aveugle.
Ouais, je te rejoins globalement. C'est plus moi ce qui me rassure, en l'occurrence, par rapport, on le disait, à un Rashawn Slater, peut-être un peu plus polyvalent, puisqu'on va le dire, hein, Monsieur Roulier, hein, quand on est bon partout, c'est qu'on est, on est excellent nulle part.
Ça dépend de la position. Oui, ça dépend de la position, en fait. Parce que, par exemple, un safety, je suis très content s'il est bon partout. Mm-hmm. Et pas grave s'il est excellent nulle part. Donc, j'ai envie de dire que ça dépend. Moi, c'est vrai que je suis un fan de Rashawn Slater. J'adore ce mec, il est soi-disant trop petit, mais alors les mecs trop petits, Jason Kelce était trop petit, Antonio Brown était trop petit, enfin on en a connu des dizaines qui étaient trop petits, mm-hmm. et qui ont fait des carrières incroyables en NFL. Je trouve que c'est vraiment alors une violence incarnée, une polyvalence, tackle, guard, limite centre, il peut tout faire. Mm-hmm. Il est physique, j'adore
ce joueur.
Pour toi,
à terme, il peut jouer tackle gauche à terme?
Je préférerais qu'il joue à droite, mm-hmm. mais je pense que s'il se développe bien, il peut jouer à gauche. Après, voilà, il y a la préférence personnelle et la projection. Ouais. C'est-à-dire que si vous me demandez ma préférence personnelle entre Slater et Darrisaw, je préfère Slater. Celui qui, je pense, sera le plus NFL ready au premier jour et qui va plus convaincre les franchises, ça va être Darrisaw. Notamment parce qu'on, vous l'avez dit, il est excellent dans la défense de passe. C'est vraiment un joueur qui peut contenir longtemps les joueurs adverses. Et mm-hmm. si on veut protéger un Joe Burrow, par exemple, ou si on veut protéger Tua, ou si on veut protéger d'autres joueurs, je pense que Darrisaw va peut-être plus correspondre à ce qu'attendent des franchises. Alors qu'une franchise qui sera peut-être plus axée sur la course, par exemple... Carolina en 8, s'ils font pas le choix du quarterback. Mmh. S'ils veulent donner un élan à Christian McCaffrey, quelqu'un qui lui ouvre des brèches, par exemple, un setter, pour moi, pourrait être intéressant. Donc après, je pense que ça dépendra des équipes et de ce que recherchent ces équipes. Mais setter, ouais, je pense que il pourra faire tackle gauche. À minima, il fera tackle droit.
Alors, on va pas faire trop long. Moi, je t'avoue que Darrisaw... Moi, ce que j'adore au-delà du côté pass pro, c'est son côté décrocheur. Slater est impressionnant et très agressif sur le jeu à la course, mais pour moi, Darisso, c'est peut-être le meilleur décrocheur de cette classe. C'est peut-être celui qui quand il poule, comme on dit outre-Atlantique, il fait pas le déplacement à vide. Tu vois, autant justement sur le pass pro, je trouve que il va peut-être avoir tendance à rester un peu trop justement sur son mouvement initial et peut-être aller au bout de l'effort entre guillemets, vraiment se reposer sur sa force brute. Alors que vraiment, tu sens que si tu le mets en mouvement, et c'est pour ça que je l'ai souvent dit que pour moi, son fit de prédilection, clairement, c'est les Niners. Je pense que si les Niners prennent pas un quarterback en 12 et que Darisso est disponible, pour moi, ce serait une énorme bêtise de le laisser filer, surtout qu'ils ont des besoins, je trouve, sur la position. C'est vraiment un décrocheur hors pair, mais je te rejoins complètement. C'est sûr que Darisso sera meilleur en pass pro, et en effet, Slater peut être un peu plus intéressant pour une équipe avide de jeu au sol un peu plus massif que les autres. Très clairement, là-dessus, je te rejoins. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de relancer le débat parce qu'il faut qu'on avance. Mais ce qui m'embête un peu avec Slater, je trouve, c'est que la hype monte beaucoup, notamment de par son match contre Chase Young, l'année dernière. C'est pas remettre en question cet état de fait. Hein. Encore une fois, il a quand même réussi à tenir en respect justement le principal pass rusher de la dernière classe et un joueur déjà extrêmement dominant en NFL. Mais ouais, pour rejoindre ce que disait Alex sur d'autres joueurs, notamment de cette classe, cette impasse sur l'année 2020, je ne sais pas si elle lui a fait que du bien. Et c'est, je pense aussi d'ailleurs pour ça qu'on ne le met peut-être pas dans notre top 10 à l'heure actuelle.
Ouais, je comprends ça. Après, voilà, moi, Darisso, j'ai un peu de mal. Je trouve soft au point d'impact, en fait. Et j'ai peur qu'il soit uniquement un... Enfin, uniquement, j'exagère, on parle d'un top 10, hein. Mais qu'il soit vraiment efficient en troisième tentative, mais qu'en première et en deuxième, il soit un tackle correct sans plus, quoi. Donc j'ai un peu de mal à... J'aimerais qu'il crée plus la différence. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi le système de Virginia Tech qui fait qu'on lui demandait plus de subir que de créer. Donc peut-être qu'il sera capable de le faire dans un autre système.
C'est sûr. On passe au numéro 13 à présent, messieurs. On va parler défense à présent. Hein. On a beaucoup parlé des attaquants jusque-là, malgré la petite parenthèse. Corner, le numéro 13. Alex, c'est un joueur qu'on connaît bien. Linebacker de Penn State, Micah Parsons. Alors, je l'avoue, c'est un classement qui lie des préférences personnelles et des projections. Ça m'inquiète un peu pour lui, malgré tout, cette histoire de soucis extrasportifs du côté de Penn State. Maintenant, on a quand même affaire à un joueur fabuleux. On parlait de Kyle Pitts en tight end un peu déguisé. Là, c'est presque un inside linebacker un peu déguisé aussi, parce que c'est presque un edge rusher à l'intérieur, quoi.
Clairement, Micah Parsons. Alors, moi, j'ai fait fi de ces problèmes extrasportifs pour le classer dans le big board. C'est clair que ça risque quand même de l'impacter sa sélection dans un mois et demi. Ceci étant dit, c'est un joueur qui est vraiment hyper solide. Tu l'as dit, ce côté inside linebacker qui peut mettre la pression, qui peut rusher, c'est vraiment un atout. Je le vois comme un gladiateur sur le second rideau, en fait. Il va me faire penser, alors je ne dis pas qu'il va avoir le même niveau, à ce qu'on a vu de Devin White notamment en playoff, c'est-à-dire super efficace contre la course et capable de venir pourrir la poche adverse et pourrir le quarterback en permanence. Et ça, bah justement, encore une fois, toujours pareil. Ça a marché à Tampa, donc il y a des équipes qui vont l'avoir en tête et qui vont certainement vouloir le reproduire. Par contre, à contrario, sur la couverture, ce qui est maintenant souvent demandé au linebacker, c'est pas sa qualité première. Voilà, ça reste un blitzer linebacker plus qu'un linebacker coureur.
Oui, c'est ça. Je pense que t'as globalement assez bien résumé. Enfin, je vais demander à Victor, mais ouais, c'est vrai que l'exemple d'Evin White, en effet, je trouve est assez intéressant. Après, c'est sûr que Victor, il y a peut-être, il y a clairement, en tout cas, un panel peut-être plus à étoffer. Et là, en l'occurrence, c'est sur ce point précis où l'impasse sur la saison 2020 est peut-être préjudiciable. C'est le fait de peut-être en voir un petit peu plus sur tout ce qu'il est capable de faire dans une défense.
Oui, c'est ça. Après, moi, je n'ai pas trouvé si mauvais que ça sur couverture. Je pense en effet que bon, c'est un poison. Hein. Alors, pour aller chasser de coureurs ou pour blitzer, mais à l'intérieur et même parfois à l'extérieur,
c'est tellement bon. Il rate peu de plaquage aussi. Hein. Ça, on l'a pas
dit. Il rate très peu de plaquage. Je crois qu'il en a raté une dizaine sur 190, un truc mais hallucinant. J'ai fait la fiche il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un joueur... J'adore. J'adore. Et en soi, honnêtement, avant ces problèmes extrasportifs, j'avais top 5. J'avais 5e. Alors oui, si on dévalue un peu parce qu'il est linebacker, je peux comprendre qu'on mette un peu plus bas. Mais enfin, pour moi, dans une équipe qui aime blitzer, qui a des blitz, des schémas de blitz inventifs ou des choses comme ça, il serait magique. Il serait magique et vraiment, c'est un poison. Le problème, c'est que, voilà, il a, on l'a dit pendant le live de Hamok, hein, il a la fâcheuse tendance à humilier ses coéquipiers, apparemment, à poser ses parties intimes sur le nez de ses coéquipiers, ce qui n'est pas toujours recommandé si vous souhaitez être bien vu des franchises NFL.
Il le faisait, alors, au-delà de la blague, il le faisait, on rappelle, avec Ittore Grossmatos, qui a été sélectionné au deuxième tour. Et à mon avis, je pense qu'il y avait un potentiel premier tour. Donc, mine de rien, ça a quand même...
Il y avait un potentiel top 20 qui s'est transformé en deuxième tour. Donc, bon, je pense que lui, c'est un potentiel top 10 qui peut se transformer en top 20-25. Il ne descendra pas tellement plus bas. Mais sur le talent, c'est un joueur incroyable. Après, voilà, il a eu un an pour mûrir, hein, après tout. Il n'a pas joué, mais il a aussi eu un an où peut-être qu'il a travaillé aussi là-dessus. Donc, à voir. Je pense que lui, ses performances en interview vont être fondamentales.
Tu m'étonnes.
Les interviews qu'il va avoir, ça va être fondamental pour voir si le joueur a mûri ou pas.
C'est sûr. Mais en tout cas, ça va être un dossier assez important dans cette classe de défenseurs. Déjà, pas forcément bien vu, en tout cas dans le top 15, hein, dans ce top 15. Mais en tout cas, ouais, ça va être là aussi un joueur extrêmement polarisant. Victor, je vais te laisser la parole sur un autre défenseur, le numéro 14. Tu nous en as déjà souvent parlé, Quitty Paye, lui pour le coup c'est un vrai edge rusher, parce que on va dire que Micah Parsons c'est un linebacker slash pass rusher, là en tout cas c'est du vrai edge, nouveau edge rusher de Michigan, ça n'a pas toujours été concluant les edge rushers des Wolverines, qu'est-ce qui peut changer avec Quitty Paye dans cette classe?
C'est un potentiel athlétique absolument, c'est du quasiment du jamais vu. Je veux dire, honnêtement, depuis Von Miller, moi, j'ai pas eu un linebacker qui m'a... Enfin, un outside linebacker de 3-4, puisque moi, c'est là où je vois. Mais j'ai rarement eu un joueur qui m'impressionne autant. Il a une mobilité qui est absolument incroyable. Il utilise son corps à la perfection. C'est vraiment... Physiquement, c'est un talent générationnel. Ça aurait pu être Jadeveon Clowney. Mais je vais dire tout de suite pourquoi c'est pas Jadeveon Clowney. Enfin, pourquoi c'est pas du coup un numéro 1 attendu. Il a le potentiel athlétique, mais alors par contre, techniquement, il joue un peu tout sur la puissance ou tout sur l'explosivité, mais il n'a pas beaucoup de mouvements différents. On a l'impression que déjà, il attaque jamais l'intérieur. Jamais. Ça, c'est dommage. Parce que ça rajoute quand même d'incertitude quand le mec en face sait que tu peux aller à l'extérieur, à l'intérieur, il va être moins sûr que si tu vas forcément à l'extérieur. Voilà, il a progressé cette année, on ne l'a pas vu assez, mais déjà c'était bien. Je pense que, voilà, bien coaché, si on lui apprend la technique pendant 1 à 2 ans, ça peut devenir une terreur en NFL.
Ouais, c'est sûr. Alex, tu as un point de vue sur Quitty Paye?
Victor a quasiment tout dit, c'est effectivement un monstre physique assez impressionnant. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est son manque de productivité. Il y a des stats qui sont relativement faibles, je trouve, pour ce qu'on attend aujourd'hui d'un pass rusher titulaire en NFL. Et si on le compare à son rival pour le premier pass rusher qui sera sélectionné, même si, voilà, en l'occurrence, Grégory Rousseau, il n'a pas joué en 2020, mais l'année dernière, il avait produit plus de 15 sacks.
Il a du mal à conclure, Quitty Paye, quoi. Voilà. Il met la pression, mais il a du mal à conclure.
Et dans le style pass rusher de Michigan, avec des statistiques de la production moyenne, je connais un peu, avec Rashan Gary, pareil, un monstre physique aussi à l'époque. Donc je pense que Quitty Paye il va marcher, mais il va lui falloir, à l'image de son aîné, un petit peu de temps pour progresser, pour s'aguerrir, peaufiner sa technique. Et je le vois pas forcément dans la position d'un Chase Young déjà hyper décisif l'année prochaine. Je pense qu'il va lui falloir un peu plus de temps.
S'il était Chase Young, il serait numéro 2 de notre classement. Il est numéro 14.
C'est ça.
Il joue aussi.
Après, on aura le temps d'en reparler de Quitty Paye, mais j'ai du mal à être encore hyper emballé sur le positionnement. vraiment clair et défini à l'échelon supérieur, j'entends que ça peut être un outside linebacker. Je serais même pas surpris que ce soit un defensive end 34. C'est déjà ce que je pensais de Rashan Gary à l'époque. Hein. Ça m'étonnerait pas de la part de Kwity Paye, même si en effet, il a quand même cette explosivité qui peut lui permettre d'être performant sur l'extérieur. Et c'est aussi ce qui le fait un petit peu... ce qui me fait un petit peu réviser mon point de vue sur lui. Ce qui me le fait peut-être un petit peu baisser au niveau de la hiérarchie. On termine ce top 15, messieurs, avec le dernier défenseur, notamment de ce classement. Et c'est un cornerback, de nouveau, JC Horn de South Carolina. Joueur dont la cote grimpe au fil des jours, Alex. Talent notamment des Gamecocks. On parlait de joueurs agressifs. Là, pour le coup, on va être assez servi avec le fils de Joe Horn, ancien receveur des Saints.
Hyper agressif, hyper présent sur son vis-à-vis. C'est comme l'avait bien décrit Jean-Michel, il me semble, dans une émission précédente ou dans le live peut-être. C'est un pot de colle. Il est voilà, il lâche vraiment rien. Donc c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup monter ces dernières semaines. Pareil, je serais pas non plus surpris, comme on a parlé tout à l'heure de Weddle, qui puisse peut-être s'immiscer entre les deux, ou peut-être même avant les deux dont on a parlé plus tôt. Mmh. C'est un gros potentiel, mais bon, moi je reste, j'ai quand même encore des réserves. Après, on verra.
T'as un point de vue quel est ton point de vue justement, Victor, sur JC Horn?
Oui, j'ai un point de vue.
Ah, dis-nous.
Je suis d'accord, je suis globalement d'accord avec Alex et je sais que je vais l'être avec toi. C'est un immense potentiel.
Ah oui.
Mais alors, en termes de constance, je crois que c'est toi, hein, Grégory, qui t'a dit un moment sur le live, enfin sur notre sac, t'as dit quand il va chasser les papillons, il fait pas semblant.
C'est ça.
C'est vrai que c'est la meilleure image qu'on puisse donner, hein, donc je te laisserai développer, mais. Voilà, c'est un joueur, on a l'impression qu'il joue à la loterie. Alors c'est super talentueux, c'est super, il y a un potentiel fou. Mais alors il va falloir se discipliner, quoi.
Oh oui.
Ça va beaucoup dépendre du coaching staff dans lequel il tombe et des gens qui l'entourent, parce que bien coaché ça peut devenir quelque chose. Mal coaché, ça peut être une catastrophe, à mon avis.
Ah, ça peut être un Drake Kirkpatrick 2.0.
J'allais dire Kevin
ouais,
King.
Quelque chose comme ça, ouais.
Oui, Kevin King aussi, ouais, bizarrement.
C'est dans le genre chasseur de papillons, ça se pose là.
Mais oui, non, en tout cas, énormément de talent de la part de JC Horn, encore une fois. Et j'ai du mal à trouver des comparaisons, parce que c'est vraiment un joueur qui va vraiment tout faire pour se faire respecter dans la NFL moderne. C'est tout ce qu'on cherche de la part d'un cornerback. Mais c'est vrai qu'il va avoir quand même ces petits excès justement d'engouement, que ce soit au contact ou justement à la couverture ou dans son duel, il va peut-être avoir tendance à perdre un petit peu les repères et à justement pas réussir à bien se placer par rapport au placement du ballon. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu, mais encore une fois le talent est indéniable et comme Victor le disait, voilà, il y a quand même une marge de progression qui en fait saliver plus d'un et qui j'imagine coïncide également avec le fait qu'il grimpe. Il n'est pas sans rappeler, par exemple, un autre ancien de South Carolina dont la cote avait grimpé vitesse grand V avant la draft à l'époque, un certain Stephon Gilmore. Donc, très franchement, soyez pas surpris, en effet, s'il arrive dans le top 10 de la prochaine draft. On a fait le point sur ce top 15. Je précise, hein, JC Horn, on l'a mis en top 15. Ça, c'était à la lutte, notamment, avec Trey Lance et Liam Eikenberg. On a hésité notamment entre les trois hommes. On vous rappelle que le top 100 est à retrouver donc à l'écrit dans quelques heures sur le site de Touchdown Actu. Et nous, on se retrouve, enfin en tout cas, les membres du podcast audio, on se retrouve dans quelques jours avec le début notamment des previews par position. On démarrera bien entendu par les quarterbacks et vous savez qu'ils sont à l'honneur au cours de cette QV. Donc rendez-vous la semaine prochaine donc pour la preview consacrée au QB. Merci Alex, merci Victor d'avoir été en ma compagnie. Et
on se retrouve donc
au fil des semaines pour analyser tout ça en détail sur l'antenne, sur les antennes, sur les programmes tout simplement de Touchdown Actu. Salut à tous, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points. Et